Si, monsieur Delcaire.
Oui,
Ah, bah, vous l'avez,
je l'ai déjà. Là, je viens juste poser une petite signature. Comme un grand.
Ah, vous l'avez aussi indiqué.
C'est
bon, celui-là, peut-être. Non,
alors, grâce à l'intelligence artificielle, vous avez constaté que nous sommes sous surveillance électronique. Et
ouais.
par conséquent, 100% de nos commentaires, gracieux, disgracieux et autres, seront consignés par la machine.
Je veux dire du bêtise, moi.
Bah, il faut se limiter. Si
Ça
c'est
va être
possible.
difficile pour nous deux.
Hein.
Bon, les autres sont sérieux, mais.
Alors, les autres, où sont-ils?
Alors, Séverine, je vous laisse prendre le fil de la réunion. Après que j'ai précisé que Jacques Bourgine est excusé, est en souffrant, ainsi que Rémi Mansour, qui nous a communiqué ce matin que lui aussi n'était pas en capacité de participer à la réunion.
Bonjour Céline. Céline, c'est...
Elle est
Allô?
connectée?
Bonjour Céline. Vous avez coupé votre micro, Céline.
C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Il y a les deux.
Elle a coupé la caméra.
Elle n'a pas mis la caméra. Les deux. J'ai fait un petit message.
C'est un peu flippant, là, ce script.
C'est pas obligatoire, en fait, maintenant, d'avoir un système d'enregistrement.
Si, 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 c'est
obligatoire.
L'audio.
L'audio de l'AG est obligatoire parce que nous sommes sur un marché réglementé.
J'enregistre de première part sur le téléphone et également sur l'écran pour être certaine que tout se passe bien. Voilà.
Donc là, on est sur les annuels en
2025,
un peu en léger retard. Oui.
Essayez de la joindre.
Oui. Bon. Écoutez, on va commencer à nous rejoindre.
Bonjour, bienvenue à l'Assemblée générale ordinaire annuelle de la société Ogro Cosmetic Packaging. Donc, les actionnaires de la société ont été convoqués dans les locaux de la société RSM France 5, 7 rue des Italiens dans le 9e arrondissement de Paris. Et Fiat Teams également. Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée. Donc, le quorum requis est atteint. L'Assemblée, en l'absence de Monsieur Jacques Bourgine, qui est président du conseil de surveillance, du coup, sera présidé par M. Guy Desbourgines, président du directoire. Je vous remercie de bien vouloir désigner en séance les deux scrutateurs, enfin les deux actionnaires qui seront scrutateurs.
Je crois que je n'ai pas trop le choix.
Ils sont deux.
Le profil de Monsieur Georgeau. Ça sera Monsieur Becker et.
Non, je vois contrôle, madame. Parfois, il y a un seul scrutateur
oui,
suffit.
D'accord.
Donc, je veux vérifier, mais donc.
Bonjour, Séverine.
Oui, bonjour.
Moi, je peux prendre cette tâche pour ma part si vous en avez convenance. Et effectivement, je ne recommande pas que Monsieur Georgeau soit spectateur parce que comme il n'est pas officiellement actionnaire,
non, ça pourrait
créer juridiquement un.
Je suis tout à fait d'accord.
Petit risque.
Je suis tout à fait d'accord. On n'a pas
mais,
eu. Je n'ai pas reçu.
Donc on fait ça. Monsieur Delcaire sera donc notre unique spectateur.
C'est suivi par
voilà. Voilà. Donc la société BDO, commissaire aux comptes titulaire régulièrement convoqué. Représentée par Madame Tini Nguyen est présente. Le comité social et économique est absent et excusé. Voilà, donc je vous laisse la parole, le président.
Donc vous avez évidemment publié notre réunion aux annonces légales. Ça a été fait. L'inventaire des comptes annuels a été arrêté au 31 décembre par notre PAC vidéo, ici représenté par Thibault. On peut peut-être passer en revue le rapport de gestion de l'année écoulée. Nous avons subi en 2025 une chute de notre chiffre d'affaires de 14%, qui a marqué sur le premier semestre, en ce qui nous concerne, la fin du déstockage du marché. Donc la décroissance a été plus importante sur le premier semestre que sur le second, où nous avons vu réapparaître des commandes de réassort que nous n'avions pas fabriquées depuis pratiquement 3 ans. Je veux rappeler à ce stade que la société Aubro ne fabrique que des produits sur mesure, à savoir des produits qui ne sont fabriqués que par un plasturgiste en général ou fabricant de pièces en aluminium, que ce soit par Aubro sur notre site d'Alençon ou que ce soit par des clients de notre division de traitement de surface qui sont eux aussi en charge de fabriquer des packagings sur mesure et non pas des packagings standards. Donc c'est la bonne nouvelle de la fin de l'année qui a vu l'activité de la société remonter et ainsi atténuer la baisse du chiffre d'affaires qui était de 22% au premier semestre et qui atterrit à 14%. Par ailleurs, je dirais que nous avons été dans une situation où les actionnaires ont assumé leurs responsabilités et ont apporté en compte courant d'associés des montants significatifs permettant à la société de tenir face à cette perte importante que nous avons subie en 2025. On peut considérer que le déstockage est terminé fin 2025 et que sur l'année 2026 qui se développe maintenant, puisque nous sommes au 30 juin, nous allons constater une évolution positive de notre activité, ce que nous n'avons pas vu depuis 3 ans. Je mentionne quand même dans le rapport que reste une incertitude eu égard au comportement un petit peu erratique du gouvernement américain. Et du gouvernement iranien, hein. On peut considérer qu'ils travaillent de pair de façon, comment dirais-je, difficile à lire et difficile à prévoir. Et ainsi, on a subi de façon factuelle une augmentation de nos prix de matières premières. Quand ce n'est pas d'augmentation de prix de nos matières premières combinée à une difficulté d'approvisionnement liée au fait qu'un nombre important de crackers ont été relocalisés au Moyen-Orient, alors qu'ils étaient initialement positionnés plutôt dans le nord de l'Europe, je pense notamment à l'Hollande, en Grande-Bretagne et en Allemagne, qui se sont désengagés de ces activités pour les relocaliser au plus près des sources de fabrication du pétrole, enfin des résines de base.
Deux questions.
Je vous en prie, allez-y.
Plus précisément sur la fin du déstockage, est-ce que cela concerne la parfumerie de luxe, la cosmétique ou les spiritueux alcool? Et la deuxième question, c'est dans quelle mesure ces hausses de matières premières nous impacte durement ou pas, c'est-à-dire dans quelle est notre capacité derrière à activer des clauses, des indexations, des couvertures qui permettent de transférer ces hausses éventuelles sur nos clients.
D'accord. Alors, première réponse, les segments de marché. Aubro est positionné principalement sur le luxe, luxe parfumerie cosmétique et luxe vin et spiritueux, évidemment spiritueux, puisque les vins ne font pas appel au type de bouchage que nous fabriquons, puisque c'est du liège pratiquement exclusivement. Sur la partie mass market, à laquelle nous ne participons pas, la valeur des parts matières premières dans le PRI, comme on dit, dans le prix de revient du produit, est très importante. Par conséquent, ce sont des matières premières, entre guillemets, génériques, qui relèvent de la catégorie des commoditisme, qui sont sur le marché mondial avec des index très précis, qui ont subi des augmentations très importantes, pouvant aller jusqu'à 2 fois, okay, mais qui ne nous concernent pas, puisque nous ne faisons pas appel à ces matières pour fabriquer nos produits. En revanche, les gens qui sont sur le MAS ont subi des hausses très importantes qu'ils ont évidemment reportées sur leur prix de vente, mais qui, comme vous le savez, avec l'effet retard, font toujours une pénalisation à T0 et dans la période initiale. Pour ce qui nous concerne, les produits de luxe, les matières que nous utilisons sont des matières techniques, c'est-à-dire que on va prendre un ordre de grandeur pour mieux illustrer mon propos. Une matière première plastique que nous utilisons a des prix de l'ordre de 3 à 7 euros, ce qui représente entre 2 et 5 fois le prix des commodities d'un flacon de shampoing L'Oréal. Dans ce contexte, les hausses matières premières ont été beaucoup moins importantes et par conséquent, on va dire qu'on en souffre à la marge. Je dirais que l'impact, il est de l'ordre du point par rapport à des prix matières premières dans notre compte de résultat qui représentent entre 10 et 12% de nos ventes. Voilà. Donc 10%, 1%, 10%, vous voyez qu'on n'est pas très impacté. Par rapport à la dernière partie de votre question concernant l'évolution réassort et évolution du marché, je dirais que pour les déstockages, le déstockage des produits de luxe est terminé et on en a des preuves au travers de la refabrication, à la fois chez nos confrères et chez nous-mêmes, de références qu'on n'a pas vues depuis 3 ans. Ça marque le fait que, n'ayant plus de stock, à minima, nos clients sont, entre guillemets, favorablement contraints de nous les réacheter à hauteur de leur vente de l'année 2026. Donc, même avec une baisse de 26% ou de 20%, par exemple, ça ferait qu'au lieu de faire zéro, entre guillemets, en 2025, on ferait 80 en 2026. Donc, évidemment, l'impact en termes de croissance sur ces références qui ne sont plus en déstockage est important.
Et donc, ces références, c'est essentiellement de la parfumerie de luxe?
Oui, parfumerie de luxe et produits de soins. Et en ce qui concerne les vins et spiritueux, où nous sommes présents directement et indirectement, je vous dirais que selon les players, plus ils sont petits, plus l'impact peut être violent. On a la chance de travailler avec le numéro 3 du secteur, 3-4. Les ventes 2026 sont sur un trend aujourd'hui de 4 fois 25. 4 fois. C'est très important. D'accord ? Et son directeur général m'a confirmé que ce n'est pas du stock qu'il fabrique, c'est vraiment des ventes qu'il a besoin de livrer. Le dernier événement significatif de mon point de vue côté marché, si on fait on regarde vraiment les effets massifs, c'est le fait que la Chine redécolle dans ses achats de produits de luxe. Je pense que la Chine, qui a connu une période difficile les 2 dernières années, contrairement à ce qu'on peut lire, évidemment, parce que la Chine est un marché quand même très opaque par rapport aux détails de ce qui s'y passe, a connu une crise quand même significative, notamment suite aux impacts très, très importants du marché immobilier, et qui a fait qu'un certain nombre d'entreprises ont beaucoup souffert, et ça s'est évidemment reporté sur les achats de produits luxe en Chine. Nos clients du luxe nous disent que le marché tant des spiritueux que le marché des produits de luxe, parfums et cosmétiques, redécolle en Chine, même si, comme on l'a constaté, de nouvelles marques chinoises de luxe sont nées et vont se développer. Mais l'appétit de produits de luxe des Chinois ne se tarit pas et c'est une excellente nouvelle pour les sociétés, entre guillemets, occidentales. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant l'activité? Je peux peut-être faire un petit zoom prospectif sur l'année 26. Comme on l'a publié, M. Delker, il faisait allusion à un communiqué de presse sur nos ventes du premier semestre 2026, qui montre une croissance de 8% par rapport à l'année dernière. En revanche, ce qui est important, c'est que la croissance, elle est de 52% sur le deuxième trimestre. on voit bien qu'on a l'atterrissage de la décroissance qui dure un peu sur un plateau, on va dire, au premier trimestre. Mais à partir du deuxième trimestre, on a une remontée violente avec un effet de base également faible qui amplifie le redécollage, mais qui ne se tarit pas et qui fait que nos carnets de commandes nous montrent, à la lumière de ce qu'on a enregistré sur nos deux sites, une activité importante. Et le dernier point qui a été violemment négatif, je dirais, à notre défaveur, c'est le fait que la sous-traitance capacitaire sur le site du TEI reprend également de façon importante. Enfin, comme je l'indique dans ce communiqué de presse, les produits nouveaux que nous avons enregistrés l'année dernière, tant sur Alençon que sur le TEI, montrent une croissance importante devant, puisque nous allons produire ces produits nouveaux, tant sur le TEI que sur l'activité d'Alençon.
Voilà. Donc c'est bien par rapport à 2025 les comparatifs.
Tout à fait. Il y a eu un addendum.
C'est ça.
Et c'était 26 par rapport à 25 et non pas par rapport à 24. J'ai repris
cette progression, on la mesure sur les trois mois, enfin sur les chacun des mois, quoi.
Alors on l'a mesuré sur le deuxième trimestre. Elle va perdurer sur le T3 et le T4. Et on a des sites qui, en ce qui concerne le TEI, par exemple, va atteindre quasiment la saturation de son activité sur le deuxième semestre. Donc on va retrouver une activité, certes inférieure à ce qu'on avait vu avant crise, parce qu'on ne veut pas regonfler nos effectifs d'intérimaires par trop, mais on va bien saturer notre outil sur le deuxième semestre. Et sur Alençon, de la même façon, on a un carnet de commandes qui est significatif et qui va nous permettre de faire un S2 qui sera, quoi qu'il arrive, en croissance significative par rapport à l'année dernière.
Un point, donc nous validons aujourd'hui les comptes 2025 qui est à d'une perte, d'une nouvelle perte, et qui a donc un impact sur le bilan. Au moment où arrive de la croissance qu'il faut financer, quel est aujourd'hui le commentaire que vous pouvez faire sur les besoins financier de l'entreprise et sa capacité à mener à bien le carnet de commandes qu'elle engrange.
Alors, la première étape qui a été positive, ça a été de faire en sorte que la société passe d'une société qui était en consommation de cash à une société qui est en excess cash flow. Donc là, sur le deuxième trimestre, on a fait cette transition. Et cette transition, je dirais que, sauf catastrophe, nous allons avoir cette situation qui va perdurer jusqu'à la fin de l'année. Deuxième élément, les injections de cash qui ont été faites par les actionnaires, finalement, ont permis de financer la perte de l'année dernière, pour être court. En ce qui concerne le financement de la croissance, on a la chance d'avoir deux éléments positifs. Le premier, c'est que notre affacturage ne montre pas de signe de limitation, puisque les signatures que nous avons en ce qui concerne nos clients, peuvent être affacturés à la hauteur de nos besoins. Et deuxièmement, en termes de financement de cash, nous n'avons pas besoin à ce stade de financer des investissements, mais il nous suffit de financer des appros. Et par conséquent, avec le cycle de fabrication, même si on est encore en cycle négatif, au sens où une partie importante de nos achats sont faits à court terme, c'est-à-dire avant d'être capable de facturer. Donc, il y a un cycle. Ce cycle négatif, il a été fait depuis bien longtemps. C'est-à-dire que depuis bien longtemps, nous sommes obligés d'acheter avant de facturer. Donc, l'effet de ce, on va dire, environ 45 jours négatifs de couverture de nos achats, il a été fait depuis deux ans, pratiquement. Et donc, avec la remontée de l'activité et des discussions avec nos fournisseurs qui se font de façon fluide, puisque ce sont des fournisseurs de longue date, ils comprennent bien que l'augmentation de nos achats est corrélée à une augmentation de nos ventes. On ne fait pas du stock de matières premières et par conséquent, ils ont tendance à relaxer également leurs termes de règlement. Que ce soit par exemple avec des verriers que je viens de renégocier ou avec des fabricants de matières premières, même si ils sont prudents, on arrive à réobtenir un certain nombre de termes de crédit qui sont plus positifs que ce qu'on avait il y a six mois. Et ça nous permettra de financer notre croissance de façon non limitative, si je puis dire. Ouais. Bah écoutez, Céline, en ce qui concerne le rapport de gestion, on va passer à la suite. En ce qui concerne donc les comptes sociaux, un chiffre d'affaires, comme je le disais, en baisse de 14%, un résultat d'exploitation qui fait que nous arrivons à moins 2,5 millions, un solde financier négatif de 181K, et donc un résultat courant après impôt de 2,7 millions, contre 3,7 millions l'année dernière, il y a 2 ans, pardon. En marge brute d'autofinancement, on est à 1,7 million contre 2,5 millions l'année précédente. Est-ce qu'il y a d'autres éléments significatifs? En éléments d'emprunt et dette, il n'y a pas de changement significatif, à part le fait que nous avons obtenu de l'Agence de développement de Normandie un concours supplémentaire de 160K, remboursable sur 13 mois de mémoire. Céline, c'est ça? Elle n'est pas avec nous, Céline.
Les 160 000, ils sont remboursables sur 36 mois.
Vous
confondez avec l'aide ARM.
Ah oui, pardon. Donc l'ADN, c'est 160 000 sur 36 mois et c'était en janvier 2026 en fait.
Mars.
En mars 2026, on a eu un concours complémentaire de l'agence, enfin de la région Normandie, qui nous a proposé un concours bancaire à court terme, donc là de 13 mois ou 12 mois.
17.
Ah, 17. Parce qu'il y a une franchise de...
Non, c'est parce qu'il y avait un mois de franchise, donc derrière, ça faisait 17 mois de remboursement.
17 mois de remboursement pour un montant de...
200 000 euros.
200 000 euros. Donc la région Normandie nous a soutenus au travers un concours sur des investissements de 160K. Et ça, c'était en début 2025, et un concours de 200K sur le début d'année 2026. Changement de méthode, Céline, il n'y a rien de spécial?
Alors, changement de méthode, si. Au niveau des changements de méthode comptable, on a appliqué les nouvelles règles comptables, à savoir plus de comptabilisation dans les transferts de charges et les résultats d'exploitation, résultats exceptionnels, excusez-moi. Donc, tout ça a été réinfecté dans les charges d'exploitation.
Donc, il n'y a plus de notion de résultats exceptionnels dans les comptes. Les résultats exceptionnels, exemple, un licenciement massif, un résultat de prud'homme, etc. Tout ça, c'est comptabilisé en charges d'exploitation.
Voilà. Et tout ce qui est transfert de charges chez nous, c'est essentiellement les remboursements de mutuelles et de maladies qui viennent en négatif sur les charges sociales.
OK. Bon. Autres éléments nouveaux en matière de comptabilisation?
Sinon, rien d'autre de spécial.
OK. En termes d'effectifs, on a clôturé l'année 2025 avec 106 salariés CDI.
Tout à fait, oui.
Contre 134 l'année d'avant. Alors, il y a eu effectivement des départs volontaires, il y a eu des ruptures conventionnelles et il y a eu deux vagues de licenciements, n'est-ce pas, Céline?
Oui, et des départs à la retraite aussi.
Et des départs à la retraite, bien sûr, ça se fait aussi.
Non remplacé.
Chez nous. OK. Dont je fais partie pour la petite histoire, évidemment. Puisque je suis parti à la retraite techniquement le 1er juillet 2025. Pas d'autres éléments significatifs à signaler, je pense. Et si vous n'avez pas des questions, d'autres questions, on va passer à... Aux résolutions, au vote, pardon. Vous voulez peut-être nous faire lecture de votre rapport?
Oui,
En fait, dans le cadre de notre audit pour l'exercice clos au 31 décembre 2025, nous avons émis deux rapports. Un rapport sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2025 et un rapport spécial sur les conventions réglementées. Je vous propose de ne pas lire entièrement les rapports. Vous les avez à votre disposition. Je vous fais juste un résumé des points essentiels de notre rapport. Premièrement, c'est un rapport avec un refus de certifier compte tenu des informations considérées comme inexactes, notamment sur le barème, sur la continuité de l'exploitation, en lien avec la finalisation des négociations des banques privées et publiques. Et deuxième point, concernant une information sur les maturités, les échéances des dettes à plus et à moins an. Deuxième point important dans notre rapport concerne une observation qui renvoie aussi à l'annexe, signalée justement, comme mentionnait Céline, un changement de méthode comptable avec la modernisation de la loi financière. Et troisièmement, on a eu aussi une observation dans le barrage sur les vérifications spécifiques concernant une information inexacte dans le rapport financier annuel. Sur la partie, le tableau des créances liquides, les créances liquides et les dettes à court terme.
OK. Merci. Est-ce que vous avez d'autres points à mentionner, Timmy? D'accord. Alors, ce qui serait intéressant pour nos actionnaires, Céline, c'est que vous fassiez, vous, votre point de vue de telle façon qu'on comprenne la différence entre guillemets de lecture ou d'interprétation de ces comptes. Sur le premier point, Céline, concernant la continuité d'activité. Donc, ce que nous disons, je parle sous votre contrôle, c'est que nous sommes actuellement en cours de négociation de l'échéancier de nos dettes avec nos banquiers et qu'en raison d'un point on va dire d'une clause suspensive de cet accord, pour être tout à fait précis, nous n'avons pas obtenu la finalisation de ces accords où tous les banquiers sont solidaires, c'est-à-dire qu'ils ont tous une attitude participative et solidaire, mais en raison du fait que nous avions été condamnés par l'AMF pour ne pas avoir publié à bonne date, nous devions nous acquitter d'une amende. Comme vous le savez, pour s'acquitter d'une amende, il faut avoir un titre de paiement. Or, ce titre de paiement devait nous être, dans le cadre de l'accord avec les banquiers, régularisé dans les 3 mois, mais les délais administratifs de l'AMF et des tribunaux français ne suivent pas ce même rythme. Et nous sommes à T plus février, mars, avril, mai, juin, juillet, nous sommes à mi-juillet et nous n'avons toujours pas reçu ce titre de paiement. Donc techniquement, nous étions dans l'impossibilité matérielle de régulariser la clause suspensive de l'accord avec nos banquiers de rééchelonnement de la dette, puisque nous n'avions pas reçu notre titre de paiement. Nous avons trouvé un nouvel accord avec nos banquiers qui consiste à séquestrer l'amende de l'AMF sur un compte...
Consigné.
Pardon ?
Consigné.
Oui, consigné, pardon. À consigner l'amende de l'AMF qui s'élève à 60 000 euros sur un compte Caisse des dépôts et consignations de notre, on va dire, négociateur avec nos banquiers. Ce qui a été fait et ce qui permet de dire avec une confiance raisonnée que nous allons pouvoir finaliser cet accord et pouvoir lever l'impossibilité pour notre commissaire aux comptes de certifier les comptes, puisque c'était l'élément clé qui faisait que nous n'étions pas en capacité potentiellement d'honorer le remboursement de nos dettes, et en particulier si l'exigibilité de celle-ci était déclarée par nos banquiers, puisque en cas de non-accord avec les banquiers, la crainte de notre commissaire aux comptes, et à juste titre, était que nous ne soyons pas en capacité de payer la dette, évidemment, exigée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant l'actif réalisable et la dette exigible, hein, c'est bien ça?
Ça, c'est plutôt dans le rapport financier. Le deuxième point, c'est dans la plaquette, dans l'annexe des comptes. Oui. Il y a un tableau d'échéance des dettes. À plus et à moins.
Oui, parce que c'est le même principe. En fait, nous avons présenté les comptes avec l'échéance des dettes basée sur les accords. Alors qu'aujourd'hui, le commissaire aux comptes remet en cause le fait qu'il a abouti à la date où lui avait les éléments.
À la date où il devait remettre son rapport. Puisqu'on était dans un système un peu ubuesque où il fallait remettre le rapport pour ne pas être passible d'une nouvelle amende de l'AMF, et que si on forçait, entre guillemets, de façon évidemment cordiale, notre commissaire aux comptes à remettre son rapport, il était dans l'impossibilité de le signer sans réserve, voire de le signer tout court. Donc, il a accepté de le signer, c'est-à-dire de refuser de le signer, et nous avons publié notre rapport sans la signature de notre commissaire aux comptes, ce qui nous a permis d'interrompre la procédure de l'AMF à notre encontre pour la deuxième année consécutive avec une publication hors délai de nos comptes. Donc ça, ça a été entériné. Et donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dès que nos...
Alors... Oui. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est en bonne voie, hein, puisque tous les banquiers et les crédit bailleurs ont donné leur accord écrit. Là, le protocole est modifié avec la prorogation et il est transmis au tribunal de commerce qui a jusqu'au 31 juillet pour donner son avis.
OK. Il y avait un troisième point de mémoire.
Si à chaque fois c'est la même chose, c'est que c'est lié et que ça a été présenté avec les dettes émises par rapport à qui est contesté par rapport au fait que le commissaire aux comptes n'avait pas encore les éléments à 100%. Non.
Ok, bon.
Et après, il faut savoir aussi que ce qui nous a permis d'établir le rapport en ce sens, c'est qu'on avait 70% des avenants qui avaient déjà été émis et qu'il nous manquait que 30% des avenants qui ne représentaient pas la majorité de notre dette, en fait.
Oui, alors, pour précision, quand on parle d'avenants, ce sont en fait tous les contrats de prêt qui sont vivants dans la société. On vu un avenant émis par les banquiers qui ont marqué leur accord sur ce rééchelonnement, et que 70% des avenants ont été signés, ça veut dire qu'ils ont été émis par les banquiers qui ont accepté le rééchelonnement, et il ne restait que 30% des banquiers qui devaient nous faire ces avenants, qui ne les avaient pas faits, et en particulier des avenants sur des contrats de crédit baux. Or, aujourd'hui, nous avons l'accord de tous les banquiers qui ont émis les avenants, évidemment, et également l'accord des banquiers et crédit bailleurs qui ont marqué leur accord par écrit auprès de notre négociateur Dorian Le. Voilà.
J'ai une question pour madame. Donc, en imaginant que les négociations actuellement en cours, effectivement, aboutissent favorablement et cette technicité soit réglée. Donc, aujourd'hui, vous avez émis un refus de certifier. Je ne connais pas la procédure. Est-ce que si ces hypothèses se lèvent, est-ce que vous serez à même de certifier désormais les comptes 2025?
Alors, il y a une procédure à respecter. Donc, ça veut dire que si demain, la société décide d'arrêter à nouveau les comptes de la société, il y a une nouvelle AG qui décide d'activer les comptes, éventuellement.
Dans le cas d'une nouvelle AG, est-ce que l'alternative possible juridiquement, je vous pose la question parce que je n'ai pas la réponse, bien sûr, serait pas de tout simplement, dans le cadre de la révision des comptes à la fin du mois de juillet, puisque vous allez passer chez nous à la fin du mois de juillet, est-ce que ça ne serait pas plus simple de faire la révision des comptes au 30 juin, et dans le cadre de votre rapport limité au 30 juin, finalement, avoir un rapport qui soit là pour le coup certifié, et qui de facto pourrait certifier les comptes sans avoir à revenir en arrière sur les comptes 2025.
Alors, déjà, pour notre revue au 30 juin 2026, ça sera un examen limité, donc ce ne sera pas un audit complet. On va émettre un rapport, on n'a pas encore démarré notre travail. Si tout se passe bien, on peut avoir un rapport normal comme les années précédentes, mais ça, on ne peut pas prédire en amont.
Non, je ne veux pas prédire, mais si dans l'hypothèse où vous seriez en capacité d'approuver les comptes dans le cas d'une revue limitée, on pourrait avoir une signature des comptes au 30 juin 2026 sans avoir le besoin de revenir en arrière pour refaire une AG certifiant les comptes 25.
En tout cas, voilà, c'est la décision de la société. On a déjà émis, notre rapport. Maintenant, on passe au 30 juin. Et le 30 juin, ben, on certifiera en fonction des éléments du.
Je pense, on va vérifier, parce que ce n'est quand même pas des cas qu'on rencontre souvent, heureusement.
Non.
Je pense que de toute façon, comme pour le cas d'une réserve, nos certifications, on ne peut pas écrire un rapport sans revenir sur ça.
Faire un retour sur ce qui s'est passé.
Si on réserve, il faut lever la réserve éventuellement, ou alors on la maintient, mais si on la lève, il faut expliquer pourquoi on la lève. Et pareil pour la non-certification, c'est-à-dire que vous allez... J'imagine dire, au titre de l'exercice 1, nous n'avions pas certifié les comptes pour telle raison, etc. Depuis, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et donc, on lève la non-certification. Enfin, je ne sais pas quelle est la formulation.
En tout cas, notre refus à certifier, c'est hyper précis. C'est sur les mentions en annexe. Et donc, cette mention-là, normalement, on verra qu'est-ce qui va être mentionné dans l'annexe au 30 juin.
Si les choses perduraient, vous ne certifieriez pas non plus le 30 juin, pour les mêmes raisons. Donc, il faut lever
ce qui a généré la non-certification au 31
juin. Voilà, exactement.
C'est une itération ou pas?
Voilà, par rapport à ce qui a été écrit, il faut de toute façon revenir dessus et lever, si c'est une réserve, on lève la réserve, si on peut la lever, et on lève aussi le fait les éléments qui ont fait qu'on n'a pas pu certifier. On est obligé de revenir dessus d'une façon ou d'une autre. Ou on maintient, ou alors, si on ne maintient pas, c'est qu'il s'est passé quelque chose et on explique pourquoi.
OK.
Sinon, pour répondre à vos questions, si les choses avaient évolué par rapport à aujourd'hui, là, effectivement, ils auraient pu faire un second rapport pour la présente assemblée. En fait. Le problème, c'est que là, on les approuve aujourd'hui. Ou alors, on dit, on ne les approuve pas, et on dit, il va se passer quelque chose dans les 15 jours, et on reporte l'assemblée 15 jours ou 3 semaines. Enfin, ça peut être ça aussi, quoi. On peut dire, aujourd'hui, finalement, on n'approuve pas les comptes.
Voilà. Et nous, on a pris la décision de dire, on fait la revue des comptes au 30 juin.
Il y a des choses, voilà, ça peut se faire, mais il faut effectivement un cadre juridique.
Événement postérieur à la clôture de l'exercice du semestre, on a des éléments significatifs à faire valoir qui permettront à notre CAC de faire sa revue limitée dans un contexte plus favorable.
C'est ça.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mentionner, Céline, à votre...
À mon niveau, non.
Est-ce que vous avez des questions? Bon. Alors, il y a un deuxième volet d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice que je voudrais mentionner, qui est un volet concernant les fonds propres. Le bilan a souffert ces deux dernières années de façon massive et nous avons l'obligation de remettre évidemment les fonds propres dans le vert, si je puis dire, dans des délais qui sont des délais légaux. Nous avons le double projet suivant. Je précise bien qu'il s'agit d'un projet qui va être évoqué, débattu et statué en conseil de surveillance avec les différents associés, et qui consiste à procéder à deux actions de renforcement des fonds propres. Le premier consisterait à faire un apport en nature et une incorporation dans les fonds propres d'un actif immobilier au travers de l'usine du TEIL, c'est-à-dire l'usine qui porte l'activité de traitement de surface. Le deuxième projet est un projet qui consisterait, après que les associés aient participé de façon très massive à des injections de de liquidités, à faire en sorte que ces liquidités soient incorporées aux fonds propres et ainsi participent à apporter des fonds propres complémentaires. Le troisième élément fondateur de cette amélioration de notre bilan, c'est la participation active et positive de notre bailleur de nos deux usines qui a d'ores et déjà marqué son accord pour un abandon de créances de 600 000 euros dans le cadre de la renégociation des échéanciers avec nos partenaires banquiers et qui a voulu marquer par là le support qu'il apportait à l'entreprise au groupe, qui n'est pas un support court-termiste, mais qui est un support de longue date. Donc, au travers cet abandon de créances, il va nourrir la rentabilité de la société et ainsi, évidemment, permettre une remontée, si on est positif, des fonds propres de façon corrélée.
Deux questions sur ces... Ah, pardon, l'abandon de créances, c'était l'an dernier. Je suis l'an dernier,
oui.
qui est sur les fonds 2025.
Oui.
Et ça, il a été acté. Et le projet, par contre, c'est pas un abandon de créance, c'est une transformation de créance.
C'est une conversion de créance en capitaux propres.
C'est un apport de créance, donc c'est pas un abandon de créance.
Oui, exactement, c'est un apport de créance en fonds propres. Ce qui fait que ça va directement dans les fonds propres et ça passe pas par le compte de résultat.
Voilà, exactement. Alors, tu retiens combien
C'est pas comme un abandon qu'on a pu faire à certaines années.
Et le montant de cette incorporation de créances sera validé en conseil de surveillance. Il sera compris entre 600 000 et 1,2 million.
Deux précisions sur ces projets d'opération. Qui est l'apporteur de l'actif immobilier, l'usine du Teil?
Gérard Georgeau est le bailleur. C'est la société SCI Groseille qui va réaliser cet apport en échange, évidemment, d'actions.
Et la transformation des
créances concourantes
et des concours, oui, des concurrents en capital.
C'est la famille Bourgine.
C'est la famille Bourgine. Et monsieur Mansour, il est dans la holding.
Il est dans la holding PBRM, okay, qui elle aussi a des comptes courants d'associés. Mais nous n'avons pas statué à ce stade sur l'articulation précise des comptes courants éventuellement apportés par PBRM et des comptes courants apportés par les Bourgines. Les comptes courants apportés par les Bourgines seront de façon définitive apportés en capital à la société Euro. Ça, c'est acquis. C'est statué avec mon père. En revanche, compte tenu du fait que les comptes courants d'Euro apportés par PBRM sont gouvernés par le conseil de surveillance de PBRM, il est évident que la décision de quel apport et quel montant, etc., n'est pas statuée et sera statuée par le conseil de surveillance au PBR.
Une observation, ce n'est pas une question. Moi, je suis un actionnaire symbolique et je félicite les actionnaires et les apporteurs d'actifs de ces efforts dans l'intérêt de la pérennité de l'entreprise.
Je pense qu'il faut être très précis parce que vous allez faire un papier, j'ai encore entendu.
Oui.
Pardon? Vous allez faire un compte rendu ou
vraiment? Non, c'est Séverine qui fera un compte rendu.
Ah oui, non, mais moi, là, vous savez, j'ai très, très petite et c'est purement à titre personnel. Et c'est des choses scindées et je ne parle jamais du groupe au gros à des tiers et encore moins dans le domaine public. Donc, tout ce qui est ici reste ici.
D'accord. C'est bien que
n'est pas indispensable de citer des chiffres précis, c'est ça?
Tout à fait.
Moi, je ne m'exprimerai dans aucun, avec personne dans aucun cas.
Je veux simplement dire que les capitaux propres devraient pouvoir redevenir positifs, si c'est ça l'objectif.
L'objectif, c'est ça. Je vous rappelle que quand même, tout ce qui est dit dans cette réunion est transcrit et fera l'objet d'une réunion, d'un compte rendu de réunion, et que par conséquent, il est techniquement public.
Donc, ce qui vient d'être dit là, c'est le projet est public.
Absolument. Absolument. C'est pour ça que je me suis bien privé de donner des chiffres précis concernant les apports et les.
Par contre, là, quand on rend des comptes courants d'associés, là, c'est un chiffre qui est dans le bilan.
Oui.
La comparaison des comptes courants d'associés de la famille Bourget, ce chiffre-là peut être donné.
500 000.
500 000, voilà.
Ça, c'est acquis. La famille Bourgine a fait des apports complémentaires très significatifs via PBRM, mais je ne porterai pas d'avis ni de perspective d'apport complémentaire tant qu'il n'a pas été entériné par le comité.
Ce qui peut être dit, c'est que moi, j'ai donné mon accord pour transformer. 1 million de créances en actions par social. Et la société Euro décidera d'aller jusqu'à ce montant ou pas.
Exactement.
Donc, il y a 600 000 euros qui étaient écrits comme possibilité dans le protocole d'accord
qui a été signé entre nous,
mais communiqué aux banques. C'est le protocole d'accord qui est intégré. Moi, j'avais offert la possibilité de transformer 600 000 euros de créances en augmentation de capital. 300 000 pour chaque SCI. Et puis, plus récemment, ça n'est pas dans le protocole, j'ai manifesté une ouverture pour 600 000 euros supplémentaires s'il y a besoin.
OK. C'est dit.
Et quant à l'actif immobilier, il y a une évaluation qui a été faite par la société de Virgo.
Il y a un commissaire de part qui va changer.
Exactement. Si nous procédons à cette incorporation.
Vous connaissez les limites. Hein. Zéro d'apport.
Il s'assure qu'il y a une évaluation.
Zéro d'apport, c'est forcément quelqu'un différent de vous.
Exactement.
Céline, je vous laisse procéder au fil des approbations.
Oui, alors je vous propose de passer au vote. Pour la première résolution, l'approbation des comptes annuels du 31 décembre 2025. Est-ce que vous souhaitez que je lise
Surtout pas.
Enfin, nous l'avons page. Nous avons le texte page 67.
Voilà, le texte. Qui vote contre? Qui s'abstient? Bien, la première résolution est adoptée. Le deuxième résolution, affectation du résultat de l'exercice. Donc, les comptes annuels présentent une perte de 2 541 656,63 euros qui vous est proposé d'affecter au compte report à nouveau. Qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée. Je passe à la troisième résolution qui est la ratification de l'avenant à la convention de compte courant passée avec la société PBRM Industrie. Alors, il s'agit de ratifier cet avenant, qui fait passer la rémunération du compte courant de 4% à 2,75%. Voilà, qui vote contre? Alors, moi, de mon côté, j'ai 14 voix contre. Qui s'abstient? Donc la résolution est adoptée
C'est de quel pourcentage à quel pourcentage?
4 à 2,75.
C'est passé de, ça a diminué.
C'est notre commissaire aux comptes qui nous a conseillé. Oui. Arnaud voilà. Delay.
Alors, les 14 qui votent contre, c'est un actionnaire au porteur. Pour la quatrième résolution, j'ai également la ratification de l'avenant à la convention de concours passée avec M. Jacques Bourgine. La convention a été autorisée par le conseil de surveillance du 26 janvier 2026. On passe de 4 à 2,75%. Qui vote contre? Là, ici, j'ai également 14 voix contre. Qui s'abstient? Donc, la résolution est adoptée. Cinquième résolution. J'ai la fin de la convention de mise à disposition de locaux à usage de domicile passée avec M. Didier Bourgine. Donc, cette convention a pris fin le 6 mai 2026. Voilà. Qui vote contre? Alors, j'ai moi 7, j'ai 7 voix contre. Voilà. Qui s'abstient? Non, la résolution est adoptée.
Les votes contre, c'est...
C'est toujours un actionnaire porteur qui a voté par le biais de la société. Voilà, je n'irai pas voter en secret. Alors, j'ai ici...
Pareil, c'est l'alignement des taux d'intérêt pour la convention de compte courant avec Didier Bourgine. Oui. Celle d'après.
C'est cela. La sixième résolution également, ratification de la convention de concours avec Didier Bourgine. Qui vote contre? Alors là, j'ai 14 voix contre. Mmh. Et j'ai qui s'abstient? La résolution est adoptée. Également la septième résolution, ratification de la convention de refacturation partielle du loyer de M. Bourgine à la société. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Il n'y a pas de voix contre?
Non, il n'y a pas de voix contre. OK. Pour la huitième résolution, j'ai le renouvellement du mandat de M. Jacques Bourgine en qualité de membre du conseil de surveillance pour une durée de 6 exercices qui arrivera à expiration. Donc, du coup, à l'issue de l'AG, statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031. Qui vote contre? J'ai 14 voix contre. Qui s'abstient? La résolution est adoptée.
En commission, je voterai favorablement à l'ensemble des résolutions.
D'accord. Donc, la neuvième résolution, c'est le renouvellement du mandat de Mme Bourgine. J'ai 14 voix contre. Voilà, donc, qui s'abstient? Nions, vous venez de le dire. C'est lié également, donc voix pour, c'est adopté. Renouvellement du mandat de Madame Catherine Boucher en qualité de membre du conseil de surveillance. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée. J'ai l'examen et l'approbation des informations mentionnées au 1 de l'article L22-19 du Code de commerce. Cela est relative aux rémunérations, les informations relatives aux rémunérations de l'exercice clos présentées au chapitre 4 du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Qui vote contre? Qui s'abstient? Là, j'ai 7 voix. Donc, la résolution est adoptée. Pour la deuxième résolution, politique de rémunération des mandataires sociaux. J'ai l'Assemblée générale, approuvez-vous la politique de rémunération des mandataires sociaux pour présenter au chapitre 4 du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise?
Ah, précisez quand même pour info qu'il n'y a pas de rémunération des mandataires sociaux.
Il n'y a pas de rémunération, c'est vrai, des mandataires sociaux. Qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée. La 13e résolution, approbation des éléments de la rémunération versée ou attribué au titre de l'exercice écoulé à M. Bourgine en qualité de président du directoire. Qui vote contre?
Très rapidement, pour nos actionnaires, on est passé d'une rémunération de l'ordre de 15 000 bruts par mois à 3 500 bruts par mois au 1er juillet. Et évidemment, donc en année pleine, je dispose d'une rémunération de 3 500 euros bruts par mois, qui me fait une rémunération nette pour info de 1800 par mois, quelque chose comme ça.
Donc, qui s'abstient ? La résolution est adoptée. La 14e résolution, il s'agit de l'approbation des éléments de rémunération au titre de l'exercice écoulé pour Madame Céline Houllier. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La résolution est adoptée. 15e résolution, approbation des éléments de la rémunération versés au titre de l'exercice écoulé à Madame Andrea Bradéane-Bourgine. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La résolution est adoptée. J'ai la 16e résolution, l'approbation de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Steve Fablet, membre du directoire. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La résolution est adoptée. J'ai l'approbation des éléments de 17e résolution, pardon. Approbation des éléments de rémunération pour Monsieur Jacques Bourgine, en qualité de président du conseil de surveillance. Qui vote contre ? J'ai 7 voix contre. Qui s'abstient ? La résolution est donc adoptée. 18e résolution. Fixation du montant annuel des rémunérations attribuées au conseil de surveillance, étant précisé qu'il n'y a pas de rémunération allouée. C'est ce qui est indiqué dans la résolution. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La résolution est adoptée. La 19e résolution, la plus importante, les pouvoirs en vue des formalités. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La résolution est donc adoptée. Voilà, je vous remercie. Je vous en remercie. Je ne sais pas quelle heure il est.
14h30.
Il est 15h30. Je vous propose de lever la séance.
Absolument.
Très bien. Je vous en remercie.
Merci pour votre présence et votre temps. Et puis, bonne fin d'après-midi.
Donc, je n'avais pas envoyé de.
Merci Céline. Au revoir.
Merci. Au revoir. Bonne journée.